1,
9h, 11h,
Wendy Bouchard. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 11h pour faire deux tours de la question avec d'abord en ce vendredi 31 mai. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Une journée mondiale sans tabac qui nous interroge sur votre rapport, notre rapport à la cigarette ou à la vaporette dans une société qui devient de plus en plus non fumeuse. 1,5 million de fumeurs classiques en moins ces deux dernières années. Qu'est-ce qui se cache derrière cette tendance? Peut-être plus de sevrage à la vaporette, on va le voir avec nos spécialistes. Des raisons économiques, sanitaires tout de même. Le tabac qui reste responsable de 75 000 morts par an. Première cause, surtout, de décès évitables. Nos invités vous accompagnent, addictologues, spécialistes et témoins patients. N'hésitez pas à venir témoigner, on vous écoute. Le standard est ouvert, Julie.
Le 39-21, 50 centimes la minute.
Et puis à 10h, on vous pose cette question. La langue française doit-elle évoluer avec l'époque? Des amoureux des mots seront en studio avec nous, toutes les générations représentées. La langue française et leur pays, comme il le dit si joliment, de Jean-Loup Chifflet à l'auteur de BD Riyad Satouf. Vos commentaires attendus au standard sur les réseaux sociaux, on le précise aussi. Hein.
Avec le hashtag Europe 1.
9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Et avec une journée de sensibilisation sur les effets du tabac, danger de la consommation, danger de l'inhalation pour une prise de conscience du problème qui peut servir pour beaucoup de déclic pour le sevrage. Bonjour Jean-Pierre Coutron.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, psychologue et addictologue. Vous êtes porte-parole de la Fédération Addiction. Le professeur Loïc Josserand, professeur de santé publique et président de l'Alliance contre le tabac, est également avec nous en ligne. Bonjour professeur.
Bonjour.
Et je suis ravie d'accueillir, un petit peu au débeauté parce que j'ai vu cette information passer ce matin. Je vous remercie d'avoir réagi si vite, Emmanuel Grégoire, vous qui êtes maire adjoint d'Anne Hidalgo à Paris. Bonjour.
Bonjour.
Voici l'interdiction que je vois ce matin sur le Huffington Post relayé. Paris qui interdit la cigarette à partir du 8 juin dans 52 parcs et jardins. Alors, je pensais que c'était un petit peu comme ça, une mesure juste d'exemplarité pour une journée. Mais non, c'est une mesure qui entre en vigueur le samedi 8 juin et qui est appelée à devenir définitive, Emmanuel Grégoire.
Oui, tout à fait. C'est en fait une montée en puissance, hein, puisque nous avions déjà fait une expérimentation dans un nombre beaucoup plus réduit de parcs et jardins. Aujourd'hui, nous annonçons l'interdiction dans 52 parcs et jardins. Enfin, il faut comprendre que c'est une petite partie, hein, puisqu'il y a plus de 490 parcs et jardins.
Ça fait 10%.
Mais l'idée, c'est absolument. Et l'idée, c'est quand même d'accompagner vers ce qui nous semble inéluctable, hein, c'est-à-dire une réduction des lieux dans lesquels il y a de la consommation de tabac en espace ouvert, en particulier dans les parcs et jardins ciblés où il y a des aires de jeu pour enfants, etc. C'est une mesure à la fois de tranquillité publique, de santé publique et aussi de propreté, parce que vous savez que nous avons un combat homérique contre les 350 tonnes de mégots que les consommateurs de cigarettes indélicats jettent dans la rue.
350 tonnes de mégots à Paris, ramassés chaque année?
Par an.
Paris,
et donc, on ne mesure ni le coût, ni la pollution que tout ça engendre.
Bon, il y a quand même des amendes théoriquement à la clé, hein, qui pourraient, là, pour le coup, faire grimper à 68 € la pénalité en cas de jet de mégots. C'est une réalité aussi, en effet, écologique. 60 milliards de mégots jetés en France sur le sol, voilà, et qui mettent 10 à 12 ans à se désagréger. Beaucoup réagissent déjà sur les réseaux sociaux, Emmanuel Grégoire, en demandant, mais alors accompagnez-nous, fumeurs, mettez-nous, comme dans les grandes capitales européennes, d'Amsterdam à Londres, des petites poubelles cigarettes un petit peu partout dans les rues de Paris, ce qui n'est pas encore le cas.
C'est pas vrai, c'est faux. Et moi, j'ai été fumeur pendant longtemps, et c'est faux. Quand on est fumeur et qu'on veut jeter son mégot dans une poubelle, on peut.
Voilà, je suis pas fumeur, c'est pour ça que je viens. Oui.
Non, mais voilà. Mais ceux qui utilisent cet argument se moquent un peu du monde. Ce n'est pas vrai. Tous les réceptacles de propreté à Paris ont été équipés d'éteignoirs. On peut aussi utiliser des petits cendriers de poche. On peut aussi écraser son mégot par terre et ensuite le jeter dans une poubelle normale. C'est vraiment un sujet d'incivilité. Moi, je reviens du Japon. Au Japon, c'est interdit de fumer dans la rue. Il n'y a pas un mégot par terre. On ne veut pas, dans notre pays, arriver à cet extrême. Et donc, c'est quand même un geste, un réflexe de propreté que les non-fumeurs indélicats doivent prendre. Et j'ai un autre exemple en tête. Les consommateurs de cigarettes à l'extérieur des bars et des restaurants ou à l'extérieur des bureaux et qui descendent en bas, beaucoup de ces établissements ont mis des cendriers. Mais bon, il y a une espèce de réflexe qui ne s'est pas encore installé de tendre la main et de mettre le mégot dans la poubelle, ce qu'elle a porté tous. Moi, j'étais fumeur, ça m'arrivait sans doute de jeter des mégots dans la rue, puis après, au bout d'un moment, j'ai appris à plus le faire, et c'est à la portée de tous les citoyens d'apprendre à plus le faire. Et donc, on va les aider, certes, mais enfin, il va juste falloir qu'ils allongent le bras, c'est à la portée de chacun, j'imagine.
Oui, un peu de conscience civique, en effet. Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris et à la maire Anne Hidalgo, merci vraiment de nous avoir donné voilà, un petit éclairage sur cette mesure qui entre en vigueur. Donc, samedi 8 juin, Paris qui interdit la cigarette dans 52 parcs et jardins. Merci Emmanuel Grégoire. Et merci Jean-Pierre Coutron. C'est un petit peu aussi dans la veine d'expérimentation que Strasbourg avait lancée l'an passé. Ce sont des exemples qui commencent à se généraliser.
Oui, je vous disais, ça fait partie aussi des plages sans tabac. On voit de plus en plus, il y a eu là Xavier Bertrand qui avait légiféré sur les espaces fermés, sur les restos, sur les cafés. Voilà. Et on voit de plus en plus maintenant des espaces publics hein, où la densité, la circulation, et puis le problème écologique hein, des mégots. Mais sur un plan sanitaire, il y a aussi cette dimension, on n'a pas envie d'avoir la fumée du voisin. Et donc, on rentre dans quelque chose. Ça va être intéressant parce qu'il va falloir réfléchir, comme à chaque fois, ce que disent une partie des personnes à aider le fumeur à pas être. Voilà. Après, ce que disait le premier adjoint est juste. Il y a une question de civisme. C'est-à-dire, pas jeter son mégot par terre, faire les 10 mètres pour aller au cendrier ou à l'éteignoir qui est installé. Ben, ça aussi, il faut avoir le courage de se le dire entre nous. C'est pas aux autorités de tout faire. On a notre part de boulot à faire en citoyen.
En tout cas, on y va étape après étape, professeur Loïc Josserand. La hausse du paquet de cigarettes, on va y venir. Ces mesures d'interdiction qui SM un petit peu partout en France, ce qui explique pour vous très clairement qu'on est en 2 ans 1,5 million de fumeurs classiques en moins, de fumeurs de cigarettes en moins.
Ah ben, il est évident que toutes ces mesures qui vont vers l'aide aux fumeurs d'une part, parce que ce qu'on oublie de dire régulièrement, c'est que il y a une prise en charge aussi de la substitution nicotinique, donc des traitements qui sont efficaces aujourd'hui.
Et qui sont remboursés par la sécurité
sociale.
Et qui
sociale, sont remboursés, hein. Donc ça c'est un élément très fort effectivement dans l'aide.
Vous
et là,
qu'on
soit à Paris ou ailleurs. Oui,
clair,
tout à fait, oui, tout à fait. On parle des patchs. Et que ça soit à Paris ou ailleurs d'ailleurs, hein, le fumeur peut être tout à fait aidé dans ce sens-là. Après tout le paquet neutre, il y a eu un effet assez majeur sur les enfants. Donc là aussi, c'est efficace et ça a été démontré, contrairement à ce que veut nous faire croire l'industrie du tabac. Et puis, bien évidemment, la politique de prix qui est en œuvre actuellement avec des hausses régulières et significatives. Je voudrais également revenir sur l'initiative Parc sans tabac ou Plage sans tabac, comme le mentionnait Jean-Pierre. C'est effectivement intéressant d'un point de vue écologique, d'un point de vue citoyen, etc. Mais il y a une autre dimension qui est très importante dans tout ça, qui est ce qu'on appelle dans notre jargon la dénormalisation, c'est-à-dire sortir l'image du tabac de notre vie quotidienne. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est dans un parc avec une cigarette que le moment est plus agréable que si on n'a pas de cigarette. Et si on sépare le plaisir d'une cigarette, parce que faut reconnaître que pour le fumeur, il y en a une, le plaisir de cette cigarette, du plaisir du moment où on est, ce qui fait le plaisir du moment dans le parc, sur la plage, c'est la relation humaine qu'on a avec ses amis, ses enfants, etc. Et c'est pas la cigarette qui crée ça, quoi.
Et donc, comment? Oui, bien sûr.
Séparons ces deux idées, dissocions l'image du tabac des moments plaisants, et on se rendra compte que le tabac n'est qu'un piège éhonté qui tue les gens. Quoi.
C'est bien la complication pour un certain nombre de fumeurs, qu'on les appelle invétérés ou pas, Jean-Pierre Coutron et professeur Loïc Josserand, et on fait le tour de la question aussi sur cet aspect du problème, cette relation très spéciale, addictive avec la cigarette qui parfois vous accompagne depuis 30, 40 ans. N'hésitez pas à venir témoigner au Standard Europe 1, nous sommes avec des hommes qui comprennent les enjeux, ils sont addictologues, ils sont là aussi pour vous accompagner en ce jour de journée mondiale sans tabac, Julie.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise. Ce dernier jour du mois de mai est une journée sans tabac. Dites-nous, quel est votre rapport à la cigarette?
Et on va en parler évidemment des politiques tarifaires avec cet objectif d'Emmanuel Macron d'arriver à un prix du paquet de 20 cigarettes à 10 euros d'ici 2020, donc dans les mois qui viennent. Professeur Loïc Josserand est avec nous, président de l'Alliance contre le tabac, et en studio Jean-Pierre Coutron, psychologue, addictologue, porte-parole de la Fédération Addiction. Je reviens sur le mot que je livrais à notre autre invité tout à l'heure, 1,6 million fumeurs en moins en France en appel peine 2 ans, recul spectaculaire. Est-ce que ça veut dire qu'on a 1 600 000 fumeurs qui ont arrêté ou autant qui sont passés à la vapoteuse, à la cigarette électronique ?
Ben alors, voilà, là on est dans le cœur d'un des débats. D'abord, ce chiffre, il additionne des personnes qui sont sorties et des personnes qui ne sont pas rentrées. Je suis par ailleurs membre de la Société française de santé publique. C'est toujours intéressant cette histoire parce que en santé publique et sur des problèmes d'addiction, il faut à la fois aider des personnes à sortir et en même temps ne pas re-remplir. Faire en sorte que d'autres ne rentrent pas. Mm-hmm. Alors, Loïc Josserand le disait, le paquet neutre, le prix, un certain nombre de mesures comme ça ont pour but d'empêcher que des personnes rentrent.
Notamment la population les plus jeunes.
Voilà, rendre le produit moins attractif et puis d'en pousser certains. Le paquet de notes ne pousse personne à arrêter, c'est clair. Mais à l'inverse, le prix fait que des personnes se disent en termes de motivation. Et là, on va trouver les différents outils. Alors, il y a un débat sur le vapotage. Moi, je suis personnellement, en tant qu'addictologue, praticien favorable au vapotage, mais à condition qu'on dise qu'il y a aussi les patchs, à condition qu'on dise qu'il y a aussi des thérapies comportementales qui vont aider, à condition qu'on dise qu'il y a aussi des traitements pharmacologiques qui vont aider. Il y a un groupe de fumeurs qui s'appelle Je ne fume plus, qui est un groupe qui cède sur Twitter, sur Internet, sur Facebook, c'est plusieurs dizaines de fumeurs, de milliers de fumeurs, et on voit bien que ce qui marche, c'est d'associer les sorties. Voilà. Alors, une sortie qui est très discutée en France, et ça, de mon point de vue, c'est dommage, c'est le vapotage, parce que c'est quand même, aujourd'hui, l'enquête le montre, la sortie la plus choisie.
C'est le premier outil d'aide au sevrage.
Et ça a un certain nombre d'avantages. Alors, ça fait poser des questions, mais ça a un certain nombre d'avantages pour des fumeurs qui peinent.
Ça fait poser des questions, et je vous en pose une, Loïc Josserand, par exemple, le vapotage incite à fumer à toute heure de la journée et à tout endroit où on ne fumait peut-être pas de manière classique encore il y a quelques années. Avec les interdictions, on fume maintenant, on vapote un petit peu toute la journée et un peu partout où on l'en passe. Et ça, est-ce que c'est grave dans le geste addictif ? Vous voyez ce que je veux dire ? Après, on parlera du produit, du contenu.
Oui, tout à fait. Ah ben alors, d'un point de vue strictement théorique et réglementaire, on n'est pas tenu de vapoter, on n'est pas autorisé à vapoter au même dans les lieux publics. On n'a pas le droit normalement de vapoter dans des restaurants, on n'a pas le droit de vapoter au cinéma, on n'a pas le droit de vapoter.
Ouais, tout le monde le fait aujourd'hui.
Sur son lieu de travail. Oui. Après ça c'est le non-respect de la réglementation effectivement. Le problème c'est une des difficultés en tout cas dans c'est l'image que ça renvoie et c'est à nouveau de la fumée. Donc si quelqu'un va peut-être à côté de moi, pourquoi est-ce que moi je n'utiliserai pas ma cigarette? Donc ça effectivement c'est une des difficultés qu'il peut y avoir avec la vapoteuse, c'est la réintroduction de la fumée, même si ce n'est pas de la fumée de tabac, j'en ai bien conscience, mais en tout cas la réintroduction d'un geste et d'une fumée dans un lieu qui depuis maintenant 2006 était justement préservé.
Ouais,
et le décret Bertrand que mentionnait Jean-Pierre, cette disparition du geste et de la fumée. Donc ça, c'est quelque part un petit recul.
Ça veut dire, juste Loïc Josserand, on va régler votre petit téléphone parce qu'il y a un petit souci. Jean-Pierre Coutron, ça veut dire que la vapoteuse à cet égard-là peut être un faux ami justement de
Alors moi, je ne le crois pas. J'entends l'argument. Hein. Je crois d'ailleurs les vapoteurs, ils sont attentifs et essayent de définir des codes de bonne conduite. Il faut qu'on soit précis. Vous avez été primé pour la bonne utilisation de la langue française. Il faut que ça nous serve là.
Alors.
Vapoter, c'est pas fumer.
Oui.
La vapeur, c'est pas la fumée. Voilà. Et donc, quelqu'un qui fait l'effort de passer un outil, la fumée reste plus longtemps dans l'air, la vapeur part en quelques secondes. Bon, il y aurait tout un tas d'arguments techniques, c'est pas le but de cette émission. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, pour être équilibré en nicotine, un certain nombre d'outils de vapotage demandent qu'on ait une dose qui soit envoyée régulièrement. Et donc, ça donne ce côté-là. Donc, c'est pour être bien équilibré avec son vapotage, il faut l'utiliser un peu plus régulièrement qu'on ne le fait avec une cigarette, qu'on allume, on se met sa dose et on y revient à temps après. Donc il faudrait qu'on ait un effort de pédagogie pour expliquer des endroits où effectivement ce serait bien de pas du tout vapoter, mais des endroits où on pourrait avoir une tolérance avec le vapoteur dès lors qu'il ne gêne pas, puisqu'il est dans une démarche de sortie du tabagisme.
Bien sûr. Ça veut dire qu'il n'y a pas non plus d'effet induit comme le tabagisme passif et d'effet passif pour ceux qui sont à côté de vapoteurs.
Si vous mettez dans un espace, vous allez toujours trouver le cas particulier dans une boîte à chaussures. sûr, oui, avec quatre vapoteurs. Oui. Et voilà. Mais voilà, l'espace et l'évaporation de la vapeur, ce n'est pas la même chose que l'espace et l'évaporation de la fumée.
Vous préférez de toute façon, Loïc Josserand, que les jeunes soient heurtés par le prix du paquet de cigarettes et s'en détournent pour privilégier un objet d'ailleurs qui est assez high-tech, qui est assez mode, la cigarette électronique pour certains. À la limite, si on doit pousser un peu la caricature, vous préférez ça, évidemment.
Alors j'ai pas bien saisi ce que vous vouliez, ce que j'ai pas bien compris, pardon, excusez-moi, mais le prix doit être
le prix dissuasif de toute façon pour les jeunes,
ouais,
qui
dissuasif, ça y a aucun problème,
et qui trouve dans la cigarette électronique un objet sympa à la mode qu'on peut utiliser loin des paquets.
Un des risques éventuels, et ça, c'est, il y a des travaux qui sont en cours là-dessus, c'est effectivement de voir apparaître la cigarette électronique comme une possible porte d'entrée vers le tabagisme. Faut quand même avoir en tête que l'industrie du tabac produit aussi et est aussi un acteur majeur du marché de la cigarette électronique. Donc, faut pas se leurrer. C'est de ce point de vue-là, il y a un risque. Les industriels ont bien compris que c'était possiblement un moyen d'hameçonner les plus jeunes. Hein. Il faut bien commencer à un moment et on commence quand on est jeune. On se met pas à fumer à 30 ou 40 ans. Donc ce que vont chercher les industriels aujourd'hui, la population qu'ils visent, c'est bien évidemment, quel que soit leur produit, les jeunes.
C'est
à ce moment-là qu'on devient fumeur.
C'est ce que veut faire Philip Morris, British American Tobacco. Hein, il pense que le vapotage représentera le tiers de leur chiffre d'affaires d'ici à 2030. Il s'y engouffre et vous craignez, de la même manière, Jean-Pierre Coutron, que ça puisse être un sas avant le tabagisme classique.
Là, franchement, on ne fait pas le boulot qu'on fait sans avoir cette préoccupation que ce ne soit pas une porte d'entrée. Mais là encore, il faut être prudent et il ne faut pas être non plus contre-productif. Le vapotage, ce n'est pas la cigarette électronique. Et il faut parler de vapotage, justement, pour ne pas créer cette passerelle en nommant comme si c'était une cigarette. Les industriels utilisent des cigarettes électroniques dans lesquelles ils mettent du tabac, qu'ils vont porter à une certaine température et jouer sur un certain nombre de choses. Donc il faut qu'on soit très prudent.
Le diable est dans les détails.
Et puis il y a des produits intermédiaires, dont la fameuse Jules, qui fait peur aux uns, qui montre aux autres aux États-Unis.
Qu'est-ce que c'est, ça ?
Le Jules, c'est cette petite vapoteuse très légère, un peu comme une clé USB, qui a pris le marché des jeunes vapoteurs aux États-Unis. Mais là encore, il y a des études. Attendons. Je voudrais juste dire là-dessus, c'est le problème des portes. Il y a des portes, il y a marqué dessus « issue de secours ». Normalement, les gens les prennent pour sortir. Majoritairement, les gens prennent les issues de secours quand il y en a besoin pour sortir. Il y a de temps en temps des personnes qui passent à contresens. Chaque fois qu'on a voulu fermer une issue de secours, il y a eu de grandes catastrophes de santé ou de grands accidents. Donc, surveillons les issues de secours, ne laissons pas les gens trop passer à contresens, mais ne faisons pas l'erreur de bloquer une issue de secours qui permet à des millions de personnes aujourd'hui de sortir du tabagisme.
En l'occurrence, le vapotage, qui est aussi à la une en cette journée mondiale sans tabac pour le sevrage, pour le passage d'un monde à l'autre. Combien de non-fumeurs aujourd'hui qui ont été fumeurs pendant des années nous disent qu'il y a un avant et un après justement leur addiction. Comment vous avez-vous arrêté de fumer et quel regard portez-vous sur vos années tabac? Eh bien, n'hésitez pas à venir témoigner au Standard Europe 1. On vous entend avec Julie et nos invités.
Le 39-21 attend vos appels. Journée mondiale sans tabac en ce vendredi. On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités.
Et on va s'intéresser aux différentes catégories de population visées. Nous faisions, Jean-Pierre Coutron, vous qui êtes psychologue et addictologue et porte-parole de la Fédération Addiction, il y a quelques semaines, à l'occasion du Red Day, un point sur les maladies cardiovasculaires des femmes, en l'occurrence. Celles-ci étant aujourd'hui très ciblées, hélas, par ces maladies et les ignorant souvent. Si nous parlons des femmes, c'est intéressant aussi en cette journée mondiale sans tabac, parce que ça reste une population assez manifestement un peu plus hermétique que les hommes, que les jeunes, par exemple, à l'arrêt du tabac ou aux campagnes de sensibilisation. Comment vous l'expliquez, d'après les chiffres qui ressortent?
Je crois que le professeur Josserand pourrait vous le dire mieux que moi, mais c'est une population qui est rentrée plus tard Donc elle a été ciblée un peu plus tard.
D'accord.
Et on a un effet un peu statistique. Hein. Et puis on a un effet un peu d'acculturation. C'est-à-dire que le tabagisme qui est vendu, hein, je suis tout à fait d'accord avec Loïc pour rappeler que c'est un produit finalement qui est un pur piège. C'est une représentation qui a réussi, de marketing, qui a réussi à accrocher le tabac à la liberté.
Oui, vous avez été fumeur, hein, Jean-Pierre Coutron.
Ah mais je suis de cette génération. J'ai même l'habitude de raconter cette anecdote, c'est ma maman qui m'a fait fumer dans la génération où j'étais. Vous voyez, c'est ma maman qui m'a dit, une dame tout à fait responsable, oui, qui m'a dit un jour, maintenant tu vas être majeur. Et elle a ouvert le tiroir et elle a donné une cigarette typique des femmes de son époque, une Royal Menthol, devant le regard plié de rire de mes sœurs, qui savaient que derrière le mur, depuis X mois, je fumais des Boyards pour ressembler à un autre représentant de la liberté, une espèce de philosophe qui pervertissait la jeunesse dans ces années-là. Donc le tabagisme, c'est une question d'image chez l'adolescent. On leur vend, et pour les femmes, on leur a vendu une émancipation, une prise de liberté, une façon de s'affirmer. Et donc il faut aller vers ce public. La problématique est par ailleurs médicale, parce qu'effectivement il y a des vulnérabilités spécifiques du fait du sexe masculin, féminin, et il y a un certain nombre de problèmes spécifiques. On a la même chose avec l'alcool chez le public féminin par rapport au tabagisme. Donc c'est maintenant que la politique globale est mise en place, on va devoir aller vers des outils plus ciblés pour travailler ces publics particuliers, oui, notamment les femmes.
Parce que c'est le cas, hein, professeur Loïc Josserand, vous qui êtes président de l'Alliance contre le tabac, il y a une surexposition des femmes aujourd'hui au danger du tabac ?
Il y a une surexposition effectivement à plusieurs niveaux. Déjà parce que dans la vie d'une femme, il y a des phénomènes, des événements majeurs que sont déjà la maternité et qui créent du coup un moment très particulier où l'exposition de la femme est dangereuse toujours pour elle-même, mais également pour le bébé. Donc ça, c'est un moment particulier. On voit aujourd'hui qu'on a une augmentation massive, enfin massive, importante en tout cas, du cancer du poumon chez la femme, qui correspond aujourd'hui à la consommation des femmes il y a une vingtaine d'années.
D'accord.
Donc là, maintenant, on voit baisser le cancer du poumon chez les hommes. Mm-hmm. De façon, sur les 15 dernières années, ça a baissé de façon régulière. Et aujourd'hui, ce sont les femmes qui font l'augmentation du nombre de décès par le tabac. On était à 73 000 il y a deux ans. On est à un peu plus de 75 000 aujourd'hui. Et ce différentiel, ce sont les femmes qui l'apportent.
Oui,
il y a un adage assez simple, hein, c'est à vivre comme des hommes, elles mourront comme des hommes.
Voilà. Ouais, c'est terrible, avec des spécificités en plus. On parlera du cocktail aussi explosif, tabac, pilule. Mais je voudrais qu'on laisse s'exprimer Manuel qui nous rejoint au 3921. Vous nous appelez de Paris. Bonjour Manuel.
Bonjour à vous.
Et merci beaucoup d'être avec nous pour échanger. Vous êtes fumeuse ou non fumeuse aujourd'hui ?
Alors j'ai arrêté de fumer. J'ai commencé à 15 ans, j'en ai maintenant 48.
Oui.
J'ai fumé de 15 ans à 30 ans et j'ai arrêté à la naissance de ma fille en fait. J'avais bien réduit pendant la grossesse, mais je me reconnais un peu dans tout ce que disent vos invités. C'est-à-dire que c'est le tabagisme, c'est d'abord une question d'image. Et à 15 ans, quand on est ado, on a envie de s'affirmer. Et du coup, je suis assez vite tombée, je dirais, dans l'addiction de la cigarette. Je fumais, j'avais vraiment une vraie consommation compulsive, en fait, à la cigarette. Donc, j'ai fumé pendant 15 ans et j'ai arrêté, en fait, pour deux raisons. D'abord, parce que je devenais maman. Et ensuite, parce que déjà à l'époque, donc c'était il y a 20 ans, on commençait à avoir des restrictions, en fait, dans les lieux.
Oui.
Pour fumer, et en fait pour moi la cigarette était aussi liée à la convivialité et je pouvais pas fumer partout où je voulais, et du coup je me suis dit bon bah finalement je suis addict à la cigarette, et en plus je peux même pas fumer avec des copains pendant un dîner, et ça devenait comme ça devenait quelque chose de restrictif. Du coup ça m'a fait penser que finalement peut-être que je pouvais trouver de la récompense et du plaisir ailleurs, voilà.
Ouais.
Et du coup, c'est un peu pour ça, et je trouve que c'est intéressant ce qu'a dit votre l'adjoint à la mairie.
Oui.
C'est qu'en fait, finalement, la cigarette, c'est aussi une affaire publique, une affaire de santé publique, et c'est pas forcément en fumant qu'on trouve du plaisir ou de la convivialité.
Bah, j'aime beaucoup votre lucidité, Manuel, et peut-être que votre témoignage va en appeler d'autres, mais justement, vous, comment vous avez réussi à vous sevrer alors on a bien compris le contexte, mais comment vous avez vécu cette abstinence, et est-ce que le sevrage s'est passé rapidement, parce que vous avez la maturité aujourd'hui que vous n'aviez peut-être pas à l'époque?
Alors justement, c'est ça que je trouve assez intéressant. À l'époque, il n'y avait pas la vapoteuse, donc. Et finalement, je me suis rendu compte assez vite que le sevrage physique, il était très 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 rapide. En une semaine, je ne ressentais pas de ce qu'on avait au départ. Souvent, quand on arrête de fumer, un peu des crampes dans l'estomac.
Ah, quand même, il y a un ressenti physique, mais ça, on va voir.
Oui, mais pas si important. Mmh. En fait, c'est surtout psychologique. Et finalement, il faut déplacer la récompense. Oui. Moi, j'avais la chance de faire du sport, et du coup, je faisais du sport tous les jours, et c'était mon moment de récompense. En fait, je pense qu'il faut trouver un dérivatif, et c'est à ce moment-là qu'on petit à petit, on se rend compte que la cigarette peut être remplacée.
Eh bien, merci beaucoup. Vous avez dit beaucoup de choses, Manuel, qui vont nous permettre... Oui, dites-moi.
Oui, je voulais juste dire une chose, c'est que moi, en fait, ma tante est décédée il y a 2 ans d'un BPCO, en fait, donc une insuffisance respiratoire due à la cigarette. Et je l'ai vue pendant 10 ans avec un masque à oxygène chez elle. Ça a été aussi pour moi un moyen de me dire qu'effectivement, j'avais bien fait d'arrêter, parce que ça a des conséquences quand même très, 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 très graves. On n'en parle pas souvent de la BPCO.
BPCO, merci beaucoup. C'est une forme, professeur Coutron, c'est une bronchite, c'est ça, chronique
C'est une des grandes formes de bronchite due au tabagisme, effectivement. Ouais, et cette année, la journée mondiale sans tabac est particulièrement associée à la BPCO.
D'accord. Et ben merci beaucoup, Manuel, pour ce témoignage. Je reprends une de vos expressions, déplacer la récompense, justement, et je vais faire réagir sur cette formule Loïc Josserand. Vous allez nous parler, l'un et l'autre, spécialiste, justement, de ce sevrage. Est-ce qu'il est vraiment physiquement dur et long? On fait le tour de la question jusqu'à 10h sur Europe 1 avec Ronan qui nous rejoint au standard.
Le tour de la question sur cette journée sans tabac. Quel est votre rapport à la cigarette?
Nos invités vous éclairent. Jean-Pierre Coutron, psychologue, addictologue, porte-parole de la Fédération Addiction, et professeur Loïc Josserand, professeur de santé publique et président de l'Alliance contre le tabac. Avant d'accueillir Ronan dans cet échange, j'aimerais, Loïc Josserand, que vous reveniez sur les mots et le témoignage de Manuel, qui nous a dit beaucoup de choses. D'abord, sa dernière image, celle de sa tante avec ce masque à oxygène pendant 10 ans, atteint par cette BPCO. Ce sont aussi ces chocs dans une vie, ces images très terribles qui peuvent faire prendre conscience des ravages du tabac.
Qui peuvent effectivement marquer. Hein. C'est évident qu'avoir des proches, ça crée immédiatement une émotion. C'est matérialisé, c'est plus quelque chose de désincarné qu'on voit dans une émission de télé. Là, ça crée vraiment le choc et ça crée vraiment la réflexion, c'est évident, quoi. Après, effectivement, dans ce qu'a dit votre auditrice, il y avait plein de choses. Il y en avait une qui était très intéressante aussi, qui est qu'elle a commencé à fumer à 15 ans. À 15 ans, c'est le plein boom du recrutement des anciens, des fumeurs qui sont décédés. C'est 70 à 80 000 décès annuels en France. Il faut les remplacer, et tous les ans, ce sont 200 000 jeunes de l'ordre de 15 ans qui commencent à fumer. Ouais. Donc ça, c'est un chiffre qui en lui-même est effrayant.
On a encore 200 000 jeunes qui commencent à fumer aujourd'hui en France.
On a encore 200 000 jeunes qui commencent à fumer. Hein, les chiffres récents sur ces classes d'âge, hein, nous montrent que on est à peine à 1% à 12-13 ans, même largement moins d'1%. Mmh. On passe d'un seul coup à 5% à 14-15 ans, et sur 16-17, on passe à 30%. Donc on voit très bien qu'il y a un âge charnière pivot qui est autour de 15 ans, où ça y est, c'est l'entrée dans le tabagisme.
Là-dessus, Jean-Pierre Coutron veut vous rejoindre peut-être.
Oui, juste, c'est tout cet effort de dénormalisation qu'évoquait le professeur Josserand en début, et qu'il faut continuer. Oui. Parce que, et on revient, le paquet neutre, le témoignage le disait bien, ouais. Le paquet neutre, on revient à compliquer un peu
le parcours,
il y a eu des restrictions, je pouvais pas le faire de la même façon, et puis c'est ce qu'on appelle fabriquer la dénormalisation en termes de santé publique, et puis construire la motivation individuellement. Elle dit continuer de donner de l'information. C'est-à-dire, c'est évident que les informations sur le cancer, ma mère ne m'aurait jamais fait fumer si elle les avait eues.
Évidemment.
Mais à l'époque, l'industrie les a retenues. Et donc, elle ne diffusait pas autant que ça dans le grand public. Donc, toute cette bataille qu'on a aujourd'hui pour faire connaître les dangers directs du tabac, cette bataille, elle est extrêmement importante à continuer,
oui.
Parce que c'est pas elle toute seule, il faudra les restrictions, il faudra la motivation, mais elle fait partie de ce dont on a besoin.
Et messieurs, juste pour fermer la parenthèse, ce ne sont pas que des gestes philanthropiques de la part de l'État ou des autorités, hein, c'est aussi parce que les dépenses de soins sont faramineuses en la matière, 26 milliards d'euros par an en dépenses de soins pour les maladies liées au tabac,
hein,
des cancers, aux pathologies cardiovasculaires, professeur.
Et surtout, ne croyons pas que le tabac est la vache à lait de l'État.
Oui.
Ça rapporte de l'argent, c'est évident, mais les taxes sur le tabac,
bien plus en dépenses,
c'est 14 milliards, 26 milliards, comme vous le rappeliez, en dépenses de soins directs. Mais le coût total du tabac pour la France, c'est 120 milliards d'euros par an.
Ouais, c'est énorme. C'est énorme.
C'est énorme.
Est-ce que vous pouvez, professeur Josserand, nous dire un mot sur le sevrage? Parce que Manuel, elle s'est sevrée manifestement en quelques jours, donc ça c'est formidable, et sans substitut. D'abord, tous les anciens fumeurs ne sont pas égaux dans le sevrage, mais est-ce qu'il y a physiquement des effets du sevrage qui se font ressentir quand on a fumé pendant 15-20 ans de 30 cigarettes par jour?
Ah bah, physiquement, il y a le manque, évidemment, quand on est en début de sevrage qui apparaît. C'est en ça que la substitution nicotinique est intéressante. Il y a d'autres produits, hein. Le vapotage, comme l'évoquait Jean-Pierre précédemment, c'est effectivement une solution, hein. C'est possible de l'utiliser quand c'est bien encadré,
oui.
Et quand surtout, on ne fait que vapoter. On n'est pas sur une utilisation
double.
Cigarette, oui. Plus vapotage.
Oui.
À ce moment-là, ça n'a aucun sens.
Et combien de temps dure cette phase de sevrage, a priori?
Il n'y a pas de règle en la matière. Moi, j'ai vu des gens qui pouvaient s'arrêter très rapidement, et puis à l'opposé, des gens chez qui c'était extrêmement compliqué. Donc, parce qu'il y a cette dimension physique, et il y a aussi une dimension psychologique qui est forte, hein. Il y a l'habitude du geste, il y a tout ça qui rentre en jeu. Il y a cette notion de récompense qu'évoquait votre auditrice également. Et si on a un objet, quelque chose qui permet de se détourner et d'avoir une forme de récompense différente, elle, c'était le sport, et c'est un très bon exemple. Mais il y a des gens, effectivement, pour qui c'est plus compliqué d'avoir cette espèce de détournement. Et là, effectivement, ça peut être plus dur. Donc, il y a vraiment une forme de motivation. Et le fumeur, de toute façon, évolue dans sa motivation au fur et à mesure. Et il ne faut jamais désespérer une tentative qui échoue. Mais c'est pas grave. Ça n'est qu'un pas supplémentaire vers l'arrêt définitif.
Alors, Manuel, elle a arrêté, manifestement, en une fois. Renan, vous êtes avec nous au Standard d'Europe 1. Bonjour. Bonjour Renan, est-ce que vous nous entendez? Vous nous appelez d'Angers au Standard d'Europe 1, bonjour. Renan, deux fois, Renan, trois fois, qui a été fumeur 35 ans. Vous êtes là ou on vous reprend après la pause? On verra. En attendant, on a le témoignage d'Audrey de Reims sur Facebook, sur les femmes et le tabac. Jean-Pierre Coutron, il y a quelque chose de déprimant, dit-elle, quand on est une femme et quand on fume, c'est la crainte de reprendre des kilos en arrêtant. On sait que le tabac brûle les graisses et le cercle est vicieux. Alors, est-ce que les filles sont plus incluses dans cette logique que les hommes, Jean-Pierre Coutron? Est-ce que ça fait partie des réalités?
Oui, c'est pour ça que ça peut être intéressant de se faire aider, hein, et de, au moment où on déclenche l'arrêt du tabac, d'avoir un accompagnement au niveau d'un diététicien ou d'une diététicienne, et de réfléchir un peu à comment on va le faire. C'est-à-dire que l'arrêt du tabac, ça doit être une opération de plaisir, pas quelque chose de... pas un chemin de croix, pas quelque chose de trop compliqué. Donc il faut pouvoir exprimer tranquillement ses craintes, le poids, le fait qu'on va devenir parfois nerveusement un peu insupportable à son entourage.
Voilà, non, mais c'est, prévenir. Hein,
le fait qu'on a besoin d'aménager quelques moments stratégiques après le café, ainsi de suite. Voilà. Il y a des personnes qui arrivent toutes seules, il y a des personnes, elles ont besoin un peu d'être aidées à faire un état des lieux, à organiser et à se dire, au niveau nourriture, pendant un moment, on va faire attention. Au niveau vie quotidienne, je vais faire attention à telle ou telle petite chose. Au niveau caractère, je vais m'aider un peu en ayant telle ou telle activité. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est la force du témoignage, c'est sa limite. C'est la force du témoignage, c'est ce qui nous engage tous. Sa limite, c'est après chacun passera par son petit chemin à lui, avec sa stratégie à lui. Et là, il faut être excessivement tolérant et permettre aux gens de faire tous les agencements dont ils ont besoin.
Alors, juste après la pause, je vous donne la parole à Alec qui a fumé pendant 40 ans, Ronan qu'on a retrouvé, qui devait finir son footing, et juste après, merci, avec nos invités Loïc Josserand, Jean-Pierre Coutron, en cette journée mondiale sans tabac. Nous sommes le 31 mai et vos témoignages sont les bienvenus.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique. Selon vous, augmenter le prix du paquet de cigarettes est-il la solution pour lutter contre le tabagisme? C'était notre question Facebook du jour. Vous avez dit non à 58%. Il y a des témoignages quand même à lire. Il faut tout simplement interdire de fumer, nous dit Amria. Mais ça rapporte tellement d'argent qu'on peut rêver.
Oui, professeur Josserand nous a dit le contraire. Hein. C'est pas une manne pour l'État.
Parce que les soins, effectivement, coûtent beaucoup à la sécurité sociale. Personnellement, je fumais depuis 35 ans. Et le jour où le paquet est passé à plus de 6 euros, j'ai arrêté du jour au lendemain. Cela correspond à environ 40 euros par semaine, signé Josette. Et puis Martine nous dit, pourquoi on ne retire pas de la vente un produit aussi dangereux que le tabac? On le fait bien pour certains médicaments. Donc tout ça, c'est surtout pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Là, ça revient toujours.
Hein, oui,
l'argent
ça revient
dans
toujours.
Les caisses de l'État. On ne pense pas aux dépenses de la sécurité sociale.
Mais on n'est pas autant de la prohibition, Jean-Pierre Coutron, simplement. Oui, c'est vrai que quand un produit existe, voilà, c'est compliqué.
Oui,
je
crois que Loïc Josserand a tout expliqué. Ça coûte plus cher à l'État que ça ne rapporte. Après, l'État, il déteste, parce que ce sont des politiques, l'État. Et celui qui est en charge du dossier déteste d'avoir à gérer une industrie qu'on va fermer en échange d'une économie. Voilà, c'est ce qui fait qu'on est parfois un peu... Voilà, parce qu'on a tendance à
des buralistes. En augmentant au fur et à mesure le prix du paquet, on y arrivera peut-être un jour.
C'est pour ça que la stratégie d'augmenter le prix du paquet et de dénormaliser le produit permet de régler sur une politique un peu plus glissante ce qu'on ferme et ce qu'on ouvre.
Et Jean-Claude nous dit, augmenter le prix du paquet, c'est juste encourager la contrebande.
Oui. Professeur Josserand ?
Non, ça c'est faux.
Ce sont des arguments qui sont ressassés régulièrement.
Ben oui. Ce sont les arguments qui sont régulièrement mis en avant par l'industrie du tabac. Les douanes françaises ont mis en avant que sur le marché, contrairement à ce que dit l'industrie du tabac qui évoque des chiffres de l'ordre de 15% de marché illicite, de contrebande et autres, les douanes n'évoquent des chiffres qui ne sont jamais supérieurs à 5%. Donc on est et ce problème va être définitivement réglé puisque depuis quelques jours maintenant, la traçabilité des paquets de cigarettes a été mise en place, notamment déjà sur le tabac à rouler, et progressivement on va s'étendre à l'ensemble des produits, et on va enfin tordre définitivement le coup avec la traçabilité, et on saura exactement ce qui relève de la contrebande, de ce qui n'en est pas. Et là, je pense qu'on arrêtera et on aura des chiffres qui iront qui ne seront pas ceux qui nous sont aujourd'hui énoncés par l'industrie du tabac et qui cherchent à nous faire dire que l'augmentation de prix est dangereuse pour la santé.
En attendant, la société française évolue sur le sujet depuis 20 ans, depuis la loi Evin, depuis la loi Bertrand sur le sujet. Nous avons quand même un tiers des Français adultes qui consomment encore du tabac, encore 75 000 morts directement des effets du tabac en France. C'est la première cause de décès évitable et vous le savez si bien, messieurs. Ronan est avec nous, on vous a retrouvé. Bonjour Ronan.
Oui, bonjour.
Merci vraiment de prendre la parole parce que votre témoignage est intéressant. Comme beaucoup, vous avez fumé longtemps et vous vous êtes arrêté rapidement. Ou de manière simple, assez simple pour vous, pour le coup?
Je trouve que pour moi, ça a été simple, alors que j'étais vraiment un gros, gros fumeur. Je suis très nerveux, donc c'était un paquet par jour pendant 35 ans.
Oui, quand même.
Donc, j'ai commencé à reprendre de sport, parce que je suis très sportif, j'ai commencé à reprendre de sport, et je me rendais compte que j'avais des capacités, mais que j'étais complètement à la rue. Dès que j'accélérais un peu, j'étais essoufflé, enfin... Et ayant 52 ans, j'ai fait un petit souci de santé il y a 2 ans, un burn-out. Je me suis dit, bon, là, il faut que je mette toutes les chances de mon côté si je veux continuer à bien vivre. Donc, je me suis mis au sport et j'ai été aidé par le service tabacologie du CHU dans...
Danger, oui.
Oui, Angers, oui.
D'accord.
Et qui m'a permis, justement, de trouver les solutions adéquates parce que chaque cas est différent. Chaque cas est particulier, donc elle a bien cerné le personnage et on a commencé par des patchs que j'ai stoppé assez rapidement.
Oui.
parce que j'en éprouvais plus le besoin. Mmh. Et je me suis mis à la vapote. Mmh. Alors, au début, avec un taux de nicotine proche des cigarettes.
Oui.
Tout ça pour arriver maintenant à un taux de 3 mg. Et à la fin, ça va terminer à zéro. Quoi. Donc,
oui, voilà. Mais c'est formidable parce que alors là, vous traduisez justement la nécessité d'un accompagnement. Parce que
grand fumeur. Alors, il y a des gens qui ont la volonté d'arrêter et qui ont la force d'arrêter seuls. Moi, je ne me sentais pas la force et justement, je voulais mettre toutes les chances de mon côté et ne pas vivre un échec.
Oui. Voilà. Écoutez, restez avec nous en ligne parce qu'on est, on rejoint par Alec qui peut-être aussi converser avec vous. Vous nous appelez de Chantilly. On dit Alec ou Alex, pardon, oui. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bah, écoutez, je voulais témoigner parce qu'en fait, j'ai fumé pendant 30 ans.
Oui.
30 ans, comme un addict, en fait, si vous voulez, c'était cigarette sur cigarette. J'avais trois paquets sur moi pour de peur de manquer. Et j'ai fumé. Vous ne pouvez pas vous imaginer, en fait, je me réveillais la nuit, quand tout le monde se réveille la nuit, ça peut arriver, mais je fumais. Je fumais en me levant, je fumais en me couchant. Et j'achetais, je vous dis, 3 à 4 paquets par jour que je n'arrivais pas à fumer parce que c'est impossible matériellement de fumer 4 paquets par jour. Mais j'ai arrêté du jour au lendemain, en fait, simplement parce que à l'époque, donc il y a une dizaine d'années, un peu plus, avec une quinzaine d'années, mon père m'a dit jure sur moi que tu vas arrêter de fumer. Et j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain, ça a été.
Avec encore beaucoup, beaucoup d'émotions, manifestement, Alex. Voilà, ça remue beaucoup de souvenirs, mais vous avez eu la force de le faire en tenant cette promesse pour votre papa. Et on ne peut que vous féliciter parce que vous avez cette volonté. C'est parfois la volonté qui manque. Et là, voilà, vous avez été. C'était le coup de pied aux fesses, c'est un peu ça aussi, paternel.
Oui. C'était tout à fait ça. Alors je vous dis, c'est pas récent, mais le fait d'avoir arrêté comme ça du jour au lendemain, parce qu'en fait, je me rappelle très bien quand j'ai dit, c'est ma dernière cigarette. C'est un peu comme, je sais pas. Un peu ému en parlant.
Mais oui, mais je sens, mais parce que voilà, c'est aussi, la cigarette est aussi liée à des parcours de vie, Jean-Pierre Coutron, c'est ça aussi. Il faut savoir faire des petits deuils de choses qui parfois, voilà, vraiment rythment chacun de vos gestes quotidiens.
Oui, la cigarette, comme beaucoup de questions d'addiction, est liée au parcours de vie. C'est ce qui rend à la fois ça compliqué et passionnant, hein, parce que on a fumé parfois avec des personnes, et puis c'est avec ces personnes ou à ces personnes qu'on va promettre qu'on ne fumera plus. Moi, c'est des histoires que je croise en consultation. Hein. Après, je rectifierai le mot volonté, parce que toutes les personnes qui veulent arrêter ont la volonté d'arrêter. Ça renvoie à un modèle comme ça. Parlons plutôt de motivation. On est motivé, on a envie, et certains vont organiser leur arrêt tout seul, et c'est très bien, et tant mieux. Et même sans jamais aller voir un professionnel, et tant mieux. Et d'autres vont avoir besoin du conseil, d'une stratégie, de se faire aider, et c'est très bien aussi. Voilà. Mais ce que chaque témoignage montre, c'est cette histoire de motivation. Un jour, chacun, dans son histoire de vie, on se construit la motivation, et pour se la construire, on a parfois des événements très singuliers, comme celui de ce dernier témoignage.
Oui.
Et puis on a, comme Emmanuel au début, on a des histoires très collectives.
Très positif,
mais il y avait aussi son histoire à elle, c'était la naissance d'un bébé.
C'est ça, oui, il y a vraiment des étapes de vie.
Voilà, c'est des étapes de vie. Donc, Loïc Josserand rappelait ce truc qui nous fait râler. À 15-16 ans, on dépense beaucoup d'argent pour se vieillir dans le regard de l'autre et se donner un peu une prestance. Donc on va acheter ces putains de cigarettes avec lesquelles, 4-5 ans plus tard, parfois on commencera à se dire, allez, maintenant, il faut que je m'en passe.
Mais
entre-temps, le piège s'est refermé et pour certains, il faudra 30 ans pour en sortir.
C'est ça. Et vous traduisez quand même ce qui ressemble totalement à une addiction, Alec, hein, voilà, chez vous, hein, très clairement.
Bah, écoutez, le terme putain de cigarette, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux.
Que c'est celui qui vous collait aussi à la peau. Je vous remercie pour votre témoignage ému, Alec de Chantilly. Je vous remercie, Ronan, vous êtes. Alors, juste un petit mot, Loïc Josserand, par exemple, Ronan, qui a arrêté la cigarette assez récemment, très accompagné, 52 ans, grand sportif. Il gagne combien d'espérance de vie avec ce magnifique geste? Il y a eu des statistiques un petit peu là-dessus.
Il va, il va, Oui, bah, il va gagner progressivement, il va retrouver un risque de non-fumeur, et ce risque de non-fumeur, bah, il va falloir... Alors, le risque cardiovasculaire diminue assez rapidement, et en quelques années, on récupère un risque cardiovasculaire qui finalement revient à celui de quelqu'un qui n'a pas fumé. En revanche, oui, récupérer un risque au niveau cancer du non-fumeur, il faut attendre 20 à 25 ans. Quoi. Oui. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit véritablement dans le temps. Hein. Il y a un caractère irritatif de la fumée qui s'entraîne. Et c'est pour ça, justement, qu'il y a aussi peut-être une fausse idée autour de vapoter et fumer en même temps, c'est-à-dire que quand on continue à fumer, on maintient ce processus irritatif qui, lui, maintient toujours ce risque de cancer. Quoi. Et ce qui est important dans la consommation et dans l'effet de la consommation en termes de santé de tabac, c'est cet effet irritatif. Et plus il est long dans le temps, et plus on maintient son risque, et plus on l'augmente. Quoi. Donc c'est ça qui est important. Quoi.
Professeur Loïc Josserand, on vous retrouve dans un instant, ainsi que le psychologue addictologue Jean-Pierre Coutron, qui est avec nous, porte-parole de la Fédération Addiction, et le témoignage d'Yvette, qui arrive vos 39-21. Merci de vos mots et de vos échanges ce matin. Aujourd'hui a lieu la journée mondiale sans tabac, l'occasion de revenir sur les mesures prises pour lutter contre le tabagisme, avec des résultats encourageants de Santé publique France, on les a publiés cette semaine, qui montrent une baisse significative, 1 600 000 fumeurs en moins en 2 ans, Wendy Bouchard.
Oui, pour diminuer aussi les dépenses de santé liées au tabac et à toutes les maladies cardiovasculaires, 26 milliards d'euros par an, avec ses motivations et ses volontés. Le prix du paquet de cigarettes qui, pour Emmanuel Macron, doit arriver à 10 euros d'ici à 2020. D'autres mesures, on en parlait en début d'émission, l'interdiction à Paris, par exemple, dès le 8 juin, dans 50 de parcs et jardins de la cigarette voilà, qui est aujourd'hui encore utilisée dans ces lieux. Qu'est-ce qui est le plus engageant pour vous, à la fois professeur Loïc Josserand et Jean-Pierre Coutron, puisqu'on fait un petit peu le point justement cette journée de sensibilisation? Quel est le signal positif que vous voulez mettre en avant ce matin, Jean-Pierre Coutron?
Mais que c'est de plus en plus facile de sortir du tabagisme, alors que c'est de plus en plus pénalisant, et on le sait maintenant, de continuer. Je crois qu'il faut sortir de cette idée que c'est très dur d'arrêter, d'ailleurs qui est une idée qui a été installée un peu insidieusement. Ça peut être compliqué, mais c'est pas impossible d'arrêter. Il y a maintenant une palette de stratégies qui permet de le faire. Ce que rappelait le professeur Josserand, si on ne réussit pas la deuxième fois, on peut y réussir la troisième fois, ainsi de suite. Voilà, on est dans un moment où on se rend compte que finalement le tabac n'apporte pas grand-chose en termes de plaisir, contrairement à ce qu'on nous a fait croire, et que les sorties sont plus différenciées, plus variées. Et je redis, le vapotage, en tenant compte de ce que dit Loïc Josserand,
oui,
il faut que ce soit un vapotage.
C'est un premier outil de sevrage.
Voilà,
oui.
Hein,
mais il faut que ça soit accompagné d'autres.
Le remboursement des traitements, l'amélioration des connaissances des thérapies comportementales, le travail, pour certains ce sera l'hypnose.
Oui, bah j'en ai un là. Juste,
le travail sur diététique. Voilà.
Je vous lis juste Pascal qui nous écrit à l'instant l'affaire Témacé, qui a fumé à partir de l'âge de 15 ans, voilà, on est dans le schématif, qui a arrêté il y a 2 mois par le biais de l'hypnose, alors qu'il s'était engagé à arrêter plusieurs fois, que chaque fois il avait replongé. Il faut trouver, dit-il, un substitut pour remplacer. Moi, je ne l'avais pas trouvé jusqu'à cette hypnose qui, pour l'instant, lui fait du bien. Voilà, donc en effet, on procède par étapes, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, mais on continue. Professeur Josserand, vous êtes dans cette même ligne partagée que Jean-Pierre Coutron, évidemment.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de ce qu'on peut vivre comme un échec sur une tentative. Au contraire, n'est qu'une partie du processus qui, à terme, va arriver au sevrage. Donc surtout, ne jamais se démoraliser, ne jamais baisser les bras, ne jamais non plus se dévaloriser quand il y a une reprise. Voilà, ça fait partie du cycle qui va progressivement amener vers le sevrage définitif.
Voilà, après une addiction. Oui. Yvette est avec nous depuis Salavas. Bonjour Yvette.
Bonjour Wendy.
Merci de prendre la parole dans cette émission. Donc vous faites partie des fumeurs ou des non-fumeurs aujourd'hui, Yvette ?
Des ex-fumeurs.
Des ex-fumeurs, ah, c'est pas mal de vous qualifier comme ça. Et vous avez fumé longtemps et beaucoup ?
J'ai commencé aussi vers l'âge de 15 ans et j'ai 62 ans et il y aura 2 ans, donc le 1er novembre, que j'ai arrêté.
D'accord. Vous l'avez fait facilement de votre côté ?
Alors, plus facilement que les autres tentatives, ça c'est sûr, je confirme, c'est très dur d'arrêter, il faut vraiment se motiver, voilà, et j'ai profité du mois sans tabac de 2017.
Ah, bravo.
Oui. Donc, je suis allée chercher le kit à la pharmacie au mois d'octobre. J'ai mis le macaron. Oui. Et tout le monde me disait, mais tu mets ça et tu fumes. Ben, je dis, oui, mais on n'est pas le 1er novembre.
D'accord.
Et donc, j'ai arrêté le 1er novembre. Je suis allée chercher une vapoteuse le 30 octobre. Et ça m'a bien aidée dans les débuts. Et comme je disais au standard, quand j'ai arrêté, j'avais 8 cigarettes dans mon paquet. Mm-hmm. Je l'ai toujours dans mon sac parce que c'est ma bouée de secours.
C'est-à-dire, vous savez qu'elles sont là, que voilà, vous n'y retoucherez peut-être
là,
plus.
Mais... m'arrive quoi que ce soit, je peux prendre une cigarette et la fumer. C'est le fait de les avoir. Si je n'en ai pas, je tourne comme une malade. Donc je dépanne parfois des gens qui n'en ont pas. Je vais racheter un paquet, je remets 8 cigarettes dans mon paquet
ah,
et je repars tranquille.
C'est incroyable, c'est l'effet psychologique aussi, mais c'est cette bouée de secours, comme elle dit.
Non, c'est pas. On connaît ça. C'est la peur de manquer. À partir du moment où j'ai plus cette peur de manquer, je peux m'occuper de ne pas consommer.
Voilà.
Si j'ai peur d'être pris en défaut, je suis obsédé par ça.
Ah, bah, écoutez, ça donnera peut-être aussi une image et un déclic à ceux qui veulent arrêter.
Tout le monde ne le fait pas. C'est pas un conseil à suivre pour tout le monde.
Merci en tout cas, Yvette.
Non,
voilà,
ça m'a beaucoup aidé. Je conseille à ceux qui peuvent le faire, de se rassurer de cette façon-là.
Oui, parce que vous avez une belle distance par rapport à la cigarette. Merci. Je terminerai par des petits mots d'Alex qui nous écrit également. D'Alice, pardon. J'ai réussi à arrêter il y a 25 ans grâce à un magnétiseur. Ce fut compliqué, mais je suis fière de moi. Vous voyez, vous avez toutes les possibilités, les méthodes, plus ou moins cartésiennes. Mais en tout cas, voilà, l'essentiel, c'est d'y arriver. Jean-Pierre Coutron, merci de votre présence. Psychologue, addictologue au STAPA Trait d'Union à Boulogne-Billancourt, membre de la Société française de santé publique et professeur Loïc Josserand, merci de votre échange sur l'heure entière sur Europe 1, président de l'Alliance contre le tabac. Merci beaucoup, professeur. Et bien voilà, merci aussi à vous tous, chers amis, d'avoir participé à cette journée mondiale sans tabac à votre manière sur l'antenne d'Europe 1. On va se retrouver, vous évoquez tout à l'heure le bruit Richelieu, cher Jean-Pierre Coutron, et bien autour des mots, justement, de la métamorphose des mots, des allitérations, des consonances, des dissonances. La langue française doit-elle évoluer avec son temps? Et comment partagez-vous l'amour des mots? Nous serons en studio avec Jean-Loup Chifflet et Riyad Satouf. À tout de suite.
Commerçants, artisans, franchisés, professions libérales, pour votre développement, découvrez l'ensemble des solutions de financement de la Banque Postale. Après étude et acceptation de votre dossier, bien sûr. Conditions sur labanquepostale.fr.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.